enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais nous parler de l'intérêt de la louange et de la prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Amen.
Amen. Je proposerai de reprendre simplement Actes chapitre 2. Nous allons lire simplement le verset 42 en introduction, où il est écrit là, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Amen. Nous avons quatre objectifs. Le premier objectif, c'est la louange et la prière. Ensuite, c'est la communion fraternelle. Nous avons besoin de la communion fraternelle, une communion profonde, une communion efficace. Ensuite, l'autre objectif, c'est l'enseignement et puis bien sûr la mission. Notre devoir et l'ordre que Jésus nous a donné, c'est de gagner des âmes. Amen. C'est de gagner des âmes perdues autour de nous. Et avec son aide, avec son secours, eh bien nous allons gagner des âmes. Alors nous allons nous arrêter sur le premier objectif, qu'est la louange et la prière. Dieu désire que ses créatures le connaissent. Nous avons été créés par le Seigneur pour que nous puissions glorifier son nom et apprendre à le connaître, apprendre le caractère de Dieu, apprendre et découvrir qui est Dieu en réalité. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas se réjouir dans le Seigneur. J'ai souvent des entretiens avec des gens qui me disent « Frère, j'ai rencontré Jésus, mais j'ai du mal à me réjouir tout le temps, j'ai du mal à accomplir cette parole qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». J'ai du mal à être heureux en permanence avec mon Dieu, j'ai du mal à saisir l'onction de Dieu dans ma vie. Et pour certains chrétiens, leur vie de chrétien ressemble plus à une épreuve permanente qu'à une vie heureuse et épanouie. La Bible ne nous dit jamais que la vie chrétienne doit être une corvée. Elle ne nous dit pas que la vie est facile, non, mais elle ne nous dit pas non plus qu'elle est une corvée. Au contraire, la vie de chrétien est une vie qui nous emmène de plus en plus dans une situation de joie, de paix et d'avenir. Amen. Les gens se plaignent autour de nous en disant « il n'y a plus d'avenir dans ce monde ». Moi j'aimerais vous dire qu'en Jésus-Christ, nous avons le plus bel avenir qui existe. Pourquoi ? Parce qu'en finalité, au bout de notre vie, nous avons la vie éternelle. Et là, la vraie vie commence. Mais déjà ici-bas, notre Dieu s'occupe de nous. Pour certaines personnes, il semble impossible de louer Dieu parce qu'elles se sentent indignes ou incapables ou trop sales pour s'adresser à Dieu. J'aimerais te dire que si tu t'approches de Dieu simplement, avec un cœur d'enfant, reconnaissant simplement ce que tu es et en venant à lui tel que tu es, simplement approche-toi et prie, tu verras que la grâce de Dieu est capable de te toucher. Est capable de restaurer ton âme. L'adoration et la prière est le meilleur moyen d'être touché par la grâce de Dieu. Personnellement, mais également en groupe, beaucoup de gens disent « Frère, je ne sais pas prier ». La prière ensemble est l'occasion de découvrir l'amour de Dieu. Et connaître l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très très important. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens suivent le Seigneur, mais n'ont jamais réellement expérimenté en profondeur l'amour intense que Dieu a pour nous. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu est rempli d'un amour incommensurable. Je rencontre également des chrétiens qui aimeraient prier, mais qui ne savent pas comment faire, parce qu'ils ont par le passé eu une expérience rabougrie de la prière, je dirais. Mais parce que pour eux, pour certaines personnes, la prière, c'est une récitation qu'on a dû apprendre. Et on récite une récitation. Et en récitant une récitation, on n'a pas de communion avec Dieu. Je me souviens pour moi-même, quand j'étais enfant, la prière pour moi, c'était même synonyme de punition dans certains cas. Lorsque j'allais dans l'endroit où on se confesse et que je sortais, on me disait, pour ta sentence, tu prieras X notre Père, X machin et X truc. Imaginez un petit peu l'image qu'on donne à la prière qui devrait être en réalité une relation avec notre Seigneur. Je ne suis pas critique lorsque je dis cela, mais j'aimerais qu'on puisse comprendre ce qu'est en réalité la prière. Il n'y a pas de moquerie dans ce que je dis, absolument pas. Mais on a éloigné les gens de ce que Dieu désirait réellement lorsqu'il nous demandait, eh bien, d'avoir des temps avec lui, des temps de prière. Pourquoi prier avec les autres ? Eh bien, premièrement, parce que Jésus lui-même invitait ses disciples à prier avec lui. On le voit dans plusieurs textes de la parole, dans Luc 9, verset 18, Luc 9, verset 28, dans Marc, chapitre 14, verset 33-35. Il y a une quantité de versets où Dieu, eh bien, nous invite, où Jésus nous invite, invitait plutôt ses disciples à prier avec lui. Et nous sommes appelés aujourd'hui disciples de Christ, n'est-ce pas ? Donc nous devons, ensemble, eh bien, prier notre Seigneur Jésus et avec notre Seigneur, parce que notre Seigneur Jésus prie pour nous auprès du trône. Vous l'avez lu comme moi dans la parole de Dieu. Deuxièmement, je crois que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, nous l'avons lu ensemble, et dans la prière. Je crois que la prière est une efficacité extraordinaire. Vous connaissez cette histoire où lorsque Pierre, dans les Actes, tout de suite après la venue du Saint-Esprit, a été jeté en prison, eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les disciples ? Ils se sont réunis dans la maison de Marie et ils ont prié pour Pierre. Ils ont intercédé pour lui. Ils ont prié pour lui et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les portes de la prison se sont ouvertes. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que c'était seulement pour Pierre, cela ? Moi, je suis persuadé qu'on a le même Dieu aujourd'hui, hein ? Et il nous le montre. Il nous le montre, ouvrons les yeux. Il nous fait voir qu'il a la même puissance, la même autorité. Les démons n'ont pas de puissance devant notre Dieu éternel. Je me suis tellement réjoui de voir l'autorité que nous avons, frères et sœurs. Utilisons-la ensemble dans la prière. Troisièmement, je crois que si nous donnons aux gens l'occasion de prier dans un petit groupe, eh bien, ou même au début, l'occasion d'entendre prier pour les personnes qui viennent la première fois et qui n'ont jamais prié, ça peut bien sûr paraître difficile de prier dans un petit groupe, mais même rien que le fait d'entendre prier va les encourager à découvrir la puissance de Dieu dans leur vie. Est-ce que vous croyez cela ? Ne soyons pas timides, ouvrons notre bouche et prions ensemble, les uns pour les autres. Les personnes qui n'ont pas encore connu cette dimension de la prière vont découvrir quelle puissance se dégage lorsque le peuple de Dieu prie. Relisons ensemble ce verset extraordinaire et la puissance extraordinaire qu'il y a dans ces deux versets de Matthieu 18 que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur, Matthieu 18, 19 et 20. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-ce que vous croyez cela ? Dans toutes nos réunions, nous allons voir des miracles. C'est une conviction de mon cœur. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Là où deux ou trois sont unis en mon nom, eh bien, là, je suis au milieu d'eux. Et tout ce que nous demanderons au nom de notre Seigneur, il nous l'accordera. Et nous allons voir des guérisons, des délivrances, des gens changer de vie, découvrir Jésus-Christ. Ça, c'est le plus beau des miracles pour moi. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui rencontre Jésus comme son sauveur et son maître, c'est le plus beau des miracles. Il n'y en a pas de plus beau. Je me souviens, nous avons fait une expérience avec ma femme il y a quelques années. Elle a fait une crise de colique néphrétique, je ne rentre pas dans les détails, la colique néphrétique c'est quelque chose de très très douloureux, et elle souffrait terriblement, et le médecin, on a été le lendemain à l'hôpital, le médecin était venu dans la nuit, tout de suite à l'hôpital on a fait des examens, et on lui a dit « Madame, il faut qu'on vous opère », et elle ne voulait pas se faire opérer, le rein était complètement bloqué, il avait doublé, même voire triplé de volume, et puis le médecin me disait, il m'a pris à part, il m'a dit « De toute façon, si on ne lui donne plus de piqûres de morphine, c'est elle-même qui va demander de venir à l'hôpital. Alors je vous fais la feuille d'admission, rentrez à la maison, vous avez la feuille d'admission et vous viendrez avec elle quand vous voulez. » Moi, j'étais inquiet, mais en même temps, je respectais la foi de ma femme qui disait au médecin, « Mon papa prie, mon mari prie avec moi, mon frère est pasteur, mon père est pasteur et je veux faire une expérience avec Dieu. » C'était sa foi, c'était sa liberté, je la respectais. J'étais inquiet au fond de moi-même, je la voyais souffrir. Et puis ce soir-là, il y a eu une réunion de prière. Et dans la réunion de prière, je ne participais pas à cette réunion de prière. à cette réunion de prière, au bout d'un moment, il y a eu une parole de connaissance. Les frères, les sœurs ont intercédé pour ma femme qui souffrait et qui était devant l'opération. Les frères et sœurs ont prié dans ce groupe pour mon épouse et une parole du Seigneur est arrivée. Et le Seigneur disait, vous pouvez maintenant vous arrêter de prier parce que je guéris Karine. Et le frère est venu très tôt le matin sonner à notre porte. Et lorsqu'il est entré, il a dit, Karine, le Seigneur nous a dit, tu es guérie. Effectivement, dans la nuit, dans la même nuit, Dieu avait guéri ma femme. Amen. L'efficacité de la prière en groupe. Dieu nous parle, Dieu agit. Et je me réjouis parce que nous allons développer une nouvelle dimension de puissance au sein de l'Église. Ce n'est plus seulement le pasteur ou les anciens qui vont pouvoir vivre les expériences avec le Seigneur. C'est chacun de nous dans nos maisons, frères et sœurs. Amen. Est-ce que ça vous intéresse, ce programme ? À moi, ça m'intéresse. Hein ? Dans la maison de Pierre, de Georges, de Jacques, des miracles, c'est fantastique. Et c'est ce qui se passait dans l'Église primitive. Et je crois que nous devons retourner et ressentir tout ce que l'Église primitive ressentait. Certains me diront, mais moi, je peux prier tout seul. Certes, mais la prière en groupe a un dynamisme que je ne peux pas expliquer, mais qui est réel. Amen. Est-ce que vous croyez cela ? Je compare cela à un repas. Quand vous prenez un bon repas, un très bon repas, tout seul, et que vous prenez ce même repas avec des amis, ben, il y a une différence. Pourquoi ? Parce que le repas, c'est le même. La différence, c'est qu'il y a une communion, un contact avec des amis, avec des frères, avec des sœurs. Je crois que la prière dans un petit groupe, a une portée toute différente que si nous sommes seuls. Je suis convaincu de cela parce que Dieu, eh bien, honore sa parole où il nous dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette parole est vraie. Il est au milieu de nous. Alors, il répond, eh bien, il répond favorablement à nos prières. Quatrièmement, la prière permet à notre Dieu de donner des directions précises à une personne, à un groupe, ou peut-être même à une église entière. Des directions de Dieu. Lorsque nous nous assemblons, lorsque nous nous unissons ensemble, en groupe pour prier, eh bien Dieu donnera des directions dans des vies. Est-ce que vous croyez cela ? À maintes et maintes reprises, j'ai expérimenté cela. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie plusieurs fois. Il y a une douzaine d'années en arrière, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui venaient me voir pour organiser des voyages en Israël. Et je n'avais jamais fait ça, je ne savais pas à qui m'adresser. Les personnes à qui je m'adressais m'avaient fait des offres beaucoup trop chères et on ne savait pas quoi faire. On s'est unis dans la prière et on a demandé au Seigneur, « Seigneur, si tu veux que nous organisions des voyages en Israël, alors il faut que ce soit toi qui nous aides. » Une prière toute simple, une prière d'enfant. Dans la demi-heure qui a suivi, moi je suis parti au travail, eh bien ça sonne à ma porte. Un frère de l'église vient, de temps en temps il passait pour boire un café, et il arrive ce jour-là, et ce jour-là il n'était pas seul. Et il dit à mon épouse, je te présente mon beau-frère, il a une agence de voyage à Mulhouse. On avait là directement la réponse de Dieu. Cet homme nous a monté un voyage à moitié moins cher que ce qu'on nous proposait. Et puis, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. Depuis 12 ans, régulièrement. Et je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, le jour où tu veux qu'on arrête, tu veux que j'arrête, ou tu veux passer le relais à quelqu'un d'autre, no problème. C'est toi qui m'as envoyé là-bas. C'est toi. Alors je t'ai obéi encore. Et le jour où tu veux que j'arrête, eh bien, j'arrêterai. Et je crois que cette notion de service doit faire partie de notre vie. Dans notre prière, venons au Seigneur, dans le sens où, Seigneur, nous sommes devant toi comme des instruments dans ta main. Utilise-nous. Et Dieu nous utilise de manière merveilleuse. Un jour, je reçois un appel téléphonique d'Israël, des gens que je ne connaissais pas, jamais vus, jamais entendus. Et on me dit, monsieur, voilà, nous sommes une organisation et nous distribuons, une association et nous distribuons du matériel médical en Israël gratuitement. On aide aussi bien les Juifs que les Arabes. Lors de vos voyages, chaque fois que vous êtes venu en Israël, vous avez toujours laissé un fauteuil roulant que vous n'avez jamais ramené en France. Et ces fauteuils roulants atterrissaient dans notre association. et j'ai une demande à vous faire. » Alors j'ai dit « Oui, faites toujours. » Et puis cet homme me dit « Nous avons besoin de plusieurs centaines des lits médicaux électriques. Et nous avons besoin de plusieurs centaines de fauteuils roulants. » Alors je dis à cet homme au téléphone « Attendez, vous êtes trompé d'adresse. Moi, je suis pasteur. Je ne travaille pas dans le commerce de matériel médical. » Et puis dans mon cœur était travaillé. Et je disais « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Tu m'as envoyé en Israël, peut-être que c'est ton plan. Et puis, je dis à cet homme, écoutez, ce que je peux faire, moi, c'est une annonce à l'église. Et puis, on verra. Et puis, surtout, on va prier pour cela. Il me dit, merci, monsieur. Il m'a laissé ses coordonnées. Et puis, j'ai annoncé à l'église et nous avons prié ensemble. On s'est unis, on a prié pour cette chose et des gens se sont mobilisés. En quelques semaines, on avait réussi à rassembler 70 lits médicalisés et des dizaines de fauteuils roulants. Ces lits sont partis en Israël. Et ça fait maintenant plusieurs années, et ça dure, et ça dure, et ça dure. L'autre jour, cette même personne... Vous savez, lorsque je leur ai dit, voilà, au bout de quelques semaines, j'ai 70 lits, etc., ils me croyaient pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé quelqu'un pour contrôler. Puis il y avait un juif très religieux qui est venu chez moi, et il m'a dit, je viens voir ce matériel. Et lorsque nous sommes arrivés chez Christian, le matériel était entreposé chez notre frère Christian. Cet homme a changé de visage. Il avait ses yeux qui ont commencé à briller. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il a pris son téléphone et il a téléphoné en Israël en disant « C'est vrai, c'est pas une blague, il faut préparer un conteneur. » Amen. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, cet homme m'a téléphoné. Et il me dit « Écoute Christian, on est devenus des amis depuis maintenant. » Chaque fois que je vais en Israël, je vais les visiter, j'emmène les groupes là-bas, visiter cette association. C'est des gens formidables, en tout cas le responsable de cette association est un homme formidable, qui aime beaucoup les gens, et qui est frappé par notre amour, qui est frappé par notre témoignage. Et je crois que aussi de cette manière, nous pouvons être des témoignages puissants. Amen. Mais toujours dans la direction, dans la conduite de Dieu. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Je sais très bien que si j'avais voulu faire les choses par moi-même, ça n'aurait jamais marché. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui est toujours vite dépassé par les événements. Hein. L'autre jour, il m'appelle, il me dit « Christian, écoute, on aurait besoin de 2000 fauteuils roulants. » Alors, je lui dis « Écoute, Pinras, tu imagines ce que c'est, 2000 fauteuils roulants ?» Il me dit « Je sais, mais même si vous en avez que quelques-uns, moi, je te dis simplement ce qu'on a besoin et je connais votre foi. » On s'est unis avec Karine, on a prié. Toujours ce dynamisme d'eux, avec nos enfants aussi, il y a plusieurs. On prie, dynamisme à plusieurs. On a prié. Seigneur, tu as entendu Pinras, tu as vu ce qui se passe. Il a besoin de 2000 fauteuils roulants. Toi, tu sais où sont ces fauteuils roulants. Guide-nous. Et puis, 2 jours après, mon épouse voulait acheter des plantes pour l'église, hein, des vraies fausses plantes. Et il y avait un magasin près de chez nous, un grand magasin qui faisait ça depuis des années. Hein. Et puis, on arrive... Enfin, là, c'est elle qui a été, pas moi. Hein, c'est pas mon rayon, les plantes. Elle arrive devant ce magasin et puis il n'y a plus de magasin de plantes. Le magasin a changé, c'est un magasin de matériel médical. Elle est triste à cause de ses fleurs. Elle dit à ma fille, bah viens, on fait demi-tour, il ne nous reste plus qu'à rentrer. Et puis elles font demi-tour et ma femme dit à ma fille, arrête, retourne. On va demander par hasard s'ils n'ont pas de matériel médical qu'ils ne veulent plus ou qu'ils donnent. Elle rentre. Elle demande le monsieur qui est là, le monsieur dit « Attendez, je vais chercher le directeur vient. » Le directeur dit « Écoutez, c'est très bien que vous veniez, venez voir. » Il lui fait voir un local, une montagne de fauteuils roulants, de toutes sortes de matériel. Vous voyez ça, la semaine prochaine, ça part à la benne. Vous pouvez prendre, venez chercher ce qui vous intéresse. À partir de la semaine prochaine, on va chercher ce qui nous intéresse. La direction de Dieu dans la prière. La prière va nous permettre de trouver la direction de Dieu. C'est quelques détails, quelques histoires comme ça qui nous est arrivé. J'en ai encore de nombreuses, mais comprenez bien le dynamisme que dégage la prière en groupe. Oui, c'est bien de prier tout seul et c'est bien d'avoir la communion avec son Seigneur seul et je vous encourage à le faire. Mais la prière en groupe dégage un dynamisme puissant, une autorité que Dieu nous donne, qui va nous permettre de saisir des victoires puissantes sur le terrain proche, pas des expériences, pas des témoignages qui viennent de Suisse, d'Allemagne, d'Amérique ou chez nous, dans notre maison, dans ma personne, pour mes enfants, pour moi-même, pour mon corps. pour ma famille. Amen. Dieu nous a donné un modèle de prière. Jésus nous a donné un modèle de prière dans la prière du Notre Père. Cette prière du Notre Père, premièrement, donne toute la place à l'Éternel, notre Dieu. Vous avez remarqué ça? Et dans nos prières, nous devons donner toute la place à notre Dieu, parce qu'il mérite cette place. Et cette prière continue en remettant notre vie passée, présente et future entre les mains de l'Éternel. Il y a un tout dans cette prière du Notre Père. Simplement pour que vous compreniez le plan que Jésus nous donne au travers de la prière et de la communion que nous pouvons avoir avec, nos seigneurs, avec notre Seigneur. Moi, j'image parfois la prière comme le téléphone, l'utilisation du téléphone. En effet, il peut y avoir exaucement de prière que si le contact est établi, vous pouvez avoir votre correspondant. Et nous avons besoin de rentrer en contact avec notre Seigneur. Si l'on s'approche de Dieu uniquement avec nos plaintes, avec nos gémissements, avec mon moi et encore mon moi, c'est un petit peu comme si vous preniez votre téléphone, vous faisiez votre propre numéro. Écoutez voir le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Ça sonne occupé. Vous pouvez faire l'essai, hein? Et si vous venez au Seigneur qu'en pensant à vous-même, vous ne pourrez pas rentrer en relation avec Dieu. Ça sonnera toujours occupé. Souvent, on apporte nos requêtes et nos supplications devant le Seigneur et en même temps, nous avons le souci de trouver une solution humaine à nos difficultés. On prie le Seigneur et en même temps qu'on prie, on dit au Seigneur, « Seigneur, donne-moi des idées pour que je puisse régler mon problème avec les solutions qui sont autour de moi. » Alors, on cherche à s'appuyer sur des hommes, on cherche des pensées, des idées. C'est comme si on se trompait de numéro. Dieu ne peut pas nous répondre non plus. Si je m'adresse à Dieu et que je vis dans le péché, là aussi Dieu ne peut pas me répondre. C'est comme si mon téléphone était débranché. Ça ne sert à rien de m'approcher du Seigneur alors que je vis dans le péché et que je sais que ce que je fais est péché et je sais que je suis impur devant Dieu et que je m'approche de mon Dieu de manière impure. Impossible d'avoir contact avec le Seigneur. Ton téléphone est débranché, c'est pas la peine, tu perds ton temps. Ou tu choisis, arrête ton péché ou continue ton péché. Mais ne téléphone pas, tu perds ton temps. Enfin, je voudrais dire que nous ne devons pas hésiter à utiliser le téléphone du Seigneur. N'hésitons pas, parce qu'il est gratuit. Vous pouvez téléphoner autant que vous voulez, vous n'aurez jamais de facture. Au contraire, Dieu nous encourage à prendre contact avec lui. Il nous encourage à prier avec lui. Je sais que le temps est passé. Juste 3 minutes, je voudrais vous parler encore de l'adoration pendant quelques instants. Le but de la création, je l'ai dit tout à l'heure, était de glorifier le Créateur. Et les psalmistes nous exhortent constamment à le faire. Il y a plusieurs textes qui nous encouragent à faire cela. Je prends rapidement quelques bribes de versets. « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom », psaume 29, verset 2. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103, verset 1. L'adoration ne se limite pas au chant de quelques cantiques. Bien souvent, les gens pensent qu'ils adorent lorsqu'ils chantent des chants. Ce n'est pas cela qu'ils désirent. C'est que nous rentrions avec un cœur rempli d'adoration. Tout ce que nous sommes, faisons, disons et chantons, que tout ce que nous sommes soit vraiment à la gloire de notre Dieu. Et c'est 1 Corinthiens 10, verset 31 qui nous encourage à cela. Tout ce que nous sommes, toute notre personne doit glorifier le nom du Seigneur. Le croyant qui loue le Seigneur dans les difficultés est souvent exaucé, frères et sœurs. Souvent, on est exaucé. Et moi, j'ai pris cette habitude lorsque je ne suis pas bien, lorsque j'ai des moments de trouble dans ma vie ou des moments où physiquement je ne suis pas bien ou je suis malade, eh bien, je loue le Seigneur. Je rentre dans ma chambre, je m'allonge sur mon lit et je loue le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je loue le Seigneur, je lui rends gloire. Parce que je sais que lui, il me délivre dans la louange. Il me redonne cette énergie dont j'ai besoin. Il y a l'histoire du roi Josaphat dans la Bible qui est très intéressante. Un jour, on vient dire à Josaphat, ben voilà, il y a une grande armée qui, au verset 2 de 2 Chroniques, chapitre 20, il est écrit là, on vint informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. » Et vous savez ce qu'a fait Josaphat? Il a prié, il a cherché la face de Dieu et Dieu lui a parlé. Et il a commencé à louer le Seigneur. Et il a donné l'ordre aux chantres, aux musiciens, à tous les artistes qui louaient le Seigneur de se mettre devant l'armée. Ça peut paraître complètement dingue, hein? Certains pourraient penser qu'ils voulaient peut-être se débarrasser de la chorale, hein. Et ils ont marché vers l'ennemi avec la chorale et les chantres devant et les musiciens. Vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, dans la louange, Dieu a tendu un piège aux ennemis qui se sont entretués entre eux. Et Josaphat est sorti vainqueur sans se battre, pratiquement. Amen. Parce qu'il a laissé la première place à la louange, il a obtenu cette grande victoire. Venez à Dieu avec des actions de grâce et des louanges. Relisez chez vous, je ne vais pas le prendre, le psaume 100, c'est un psaume extraordinaire qui est encourageant à louer le Seigneur. Si vous venez à lui avec animosité, avec un cœur aigri, avec des plaintes, de l'amertume, jamais vous n'entrerez dans l'adoration et jamais vous n'aurez de réponse. Frères et sœurs, laissons notre amertume dehors. C'est sûr que souvent nous sommes victimes d'injustice, et moi aussi, ça m'arrive. Mais laissons l'amertume de côté. Seigneur, c'est toi qui t'occupes de moi, c'est toi qui t'occupes de ma vie, c'est toi qui as vu cette injustice, tu connais ce qui s'est passé, tu vois, c'est pas juste. Mais Seigneur, c'est toi qui t'occupes de ce problème. Cette confiance totale que nous pouvons faire à notre Seigneur va lui faire un grand plaisir et va permettre au Seigneur de nous bénir. Amen. Deuxièmement, résister à l'accusation. Satan nous accuse. Lorsque nous voulons entrer dans la louange, il est en train de nous dire à l'oreille, « Mais qu'est-ce que tu fais là, espèce d'hypocrite avec les mains en l'air et en train de chanter, alors que tu as fait ceci, cela ?» Ne le laissez pas faire. Dites-lui à Satan, « Ok, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai que j'ai fait ça, mais par le sang de Jésus, je suis pardonné et je peux revenir au Seigneur. Je demandais pardon et je demande au Seigneur la force de ne plus recommencer ce que j'ai fait et je sais qu'il va m'aider. » Et ainsi, le diable devra cesser de nous accuser. Ne vous laissez pas accuser lorsque vous voulez entrer dans la louange. Ne vous laissez pas traiter d'hypocrite par le diable. Mais répondez-lui avec assurance à cause du sang de Jésus qui nous purifie. Et corrigez vos vies. Et moi aussi, le premier, je dois corriger ma vie. Je prêche aussi pour moi-même, afin de ne pas retomber toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés, dans les mêmes fautes. Dieu nous exhorte à aller de l'avant. L'adoration nous aide à mieux comprendre les réalités spirituelles. Il nous aide à mieux comprendre ce qui se passe au-dessus de nous. La Bible nous dit « Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits, les dominations qui sont dans les airs. » Dieu nous aide à entrer dans cette dimension et à combattre ce combat spirituel par ce temps d'adoration et de louange. L'adoration produit une explication et une révélation de la volonté de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Est-ce que vous croyez cela ? Amen. Et ainsi, il pourra nous conduire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devenons de plus en plus sensibles et obéissants aux directions de Dieu pour nous lorsque nous entrons dans ce domaine de l'adoration. Un quatrième point, avant une très courte conclusion, l'adoration produit une explication et une révélation de la volonté de Dieu dans ce qu'il veut pour vous. Chaque jour, nous devenons de plus en plus dépendants de lui lorsque nous sommes dans cette situation d'adorateur, lorsque nous lui donnons toute la place, la première place. Notre gros problème en tant qu'homme, en tant qu'être humain, c'est de donner la première place à l'Éternel, notre Dieu. Et ça reste notre combat permanent. Et le diable le sait. C'est pour cela qu'il met devant nous toutes sortes de tentations. Le Seigneur désire vraiment qu'il soit le premier dans notre vie. Le number one. Le premier de tout. Avant mon épouse, avant mes enfants, avant ma maison, avant ma voiture. Alors on dit Amen. On dit vite Amen. Mais souvent, on est obligé de s'analyser, de se reprendre, de se secouer soi-même. Je parle pour moi, là. Hein ? Lorsque Dieu est le premier dans notre vie, il n'y a aucun obstacle qui peut nous résister. En conclusion, je dirais simplement que la prière en groupe va nous entraîner dans une dimension de confiance totale envers notre Seigneur. Une dimension de confiance totale. Pourquoi ? Parce que l'on va avoir des réponses à nos prières. Et on va être encouragés les uns par les autres, par les témoignages des uns et des autres, au sein du groupe. Je suis sûr que beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de prier vont être stimulées par cela dans leur vie personnelle et vont découvrir que Dieu, en réalité, est le spécialiste des causes perdues. Amen. Amen. Dieu est le spécialiste des causes perdues et il aime ces situations. Jésus aime ces situations des causes perdues parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, Il est la seule solution. Amen. Alors faisons une totale confiance à notre Seigneur.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.